France Inter.
Bonsoir, bienvenue dans Autant n'importe l'histoire. Aujourd'hui, Marie Curie, prix Nobel, veuve illustre et femme amoureuse. Près de 100 ans après sa mort, Marie Curie n'en finit pas de nous fasciner et surtout de nous inspirer. Première femme à recevoir un prix Nobel, première et unique scientifique à en recevoir un second, première femme professeure à la Sorbonne et première à entrer à l'Académie de médecine. Et en 1995, elle sera la première femme à entrer au Panthéon pour son propre mérite. Mais au départ, rien n'allait de soi et tout au long de sa vie, elle a dû se battre. Femme née polonaise dans l'Empire russe, étudiante pauvre et étrangère en France, Maria Sklodowska, future Marie Curie, avait en elle une ténacité à toute épreuve. Il lui en faudra quand, devenue veuve, elle élèvera seule ses enfants et quand elle verra sa liaison avec un homme marié exposé dans la presse. Un scandale à la Labiche qui lui coûtera de peu son second Nobel. Là où Marie Curie aussi nous étonne et plus que jamais doit nous inspirer, c'est sa modernité dans l'éducation de ses enfants, son ouverture sur le monde et bien sûr, plus que tout, sa vision de la science, la grande passion de sa vie, qui toujours doit se mettre au service de l'humanité.
France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Renaud Huyne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du musée Curie à Paris. Ce musée est situé dans le bâtiment de l'Institut du Radium, c'est ça, qui a été créé en 1914.
Vous êtes très bien renseigné. C'est en effet son troisième et dernier laboratoire. C'est l'Institut du Radium, où elle va passer les 20 dernières années de sa vie pour diriger les recherches sur la radioactivité.
Ça doit être assez impressionnant de travailler dans ce lieu où Marie Curie a vécu et travaillé autant.
Oui, c'est sûr que c'est un lieu mémoriel où il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de souvenirs et des objets aussi qui ont appartenu à Marie Curie qu'on présente dans son bureau, qui a été préservé.
Alors l'histoire que je vais raconter dans un instant commence en 1906, après le décès de Pierre Curie, donc l'époux de Marie, le père de ses deux filles, Irène et Ève, et bien sûr le compagnon de leur aventure scientifique commune. Alors pouvez-vous, Renaud Huyne, nous rappeler les grandes lignes de la vie donc de Maria Sklodowska, qui va devenir Marie Curie, quelle va être sa vie jusqu'en 1906?
Alors elle est née en Pologne, comme vous le disiez, c'est la dernière d'une famille de 5 enfants. Mais le problème de la Pologne à cette époque, c'est qu'elle n'existait pas. Varsovie était une partie de la Russie. Et ça avait comme conséquence que les femmes n'avaient pas accès aux études supérieures. C'est ce qui va conduire la petite Maria à venir étudier à Paris, à s'inscrire à la Sorbonne et passer successivement 2 licences. La première de mathématiques, puis une seconde en physique, pour pouvoir ensuite se voir confier une étude sur les propriétés magnétiques des aciers. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer un certain Pierre Curie, qui était professeur à l'école municipale de physique et chimie industrielle et un des spécialistes de ce magnétisme. Et très vite, ils vont voir que des affinités scientifiques pouvaient naître entre eux, mais
Marie avait... Affinités amoureuses aussi.
Oui, sans doute, c'est difficile de parler de coup de foudre, mais une relation qui naissait. Et malheureusement, la petite Maria, la jeune Maria, souhaitait revenir en Pologne auprès de sa famille pour pouvoir aider son pays à s'émanciper. Et c'est là qu'elle reçoit de très belles lettres de Pierre Curie qui va insister pour qu'elle le rejoigne à Paris et qu'ensemble, ils puissent construire un rêve scientifique.
Donc ils se marient en 1895, 2 ans plus tard, leur première fille naît, Irène, mais Marie continue son travail de recherche.
Oui, elle va d'abord passer l'agrégation pour pouvoir enseigner, et ensuite, dès la naissance d'Irène, elle va s'engager dans un travail de thèse de doctorat pour prolonger les travaux d'un certain Henri Becquerel qui avait découvert que l'uranium émettait des radiations. Et elle va se mettre en tête de vérifier si d'autres éléments avaient ces mêmes propriétés que les rayons de Becquerel. Elle découvre très vite que le thorium, par exemple, émet aussi des radiations. Elle va proposer ce terme de radioactivité pour expliquer que c'est un phénomène qui concerne pas seulement l'uranium, mais également le thorium et peut-être d'autres éléments chimiques. Et Pierre Curie va se joindre à elle pour essayer de traquer justement ces nouveaux éléments qu'on pouvait identifier par rapport au rayonnement qu'ils émettaient. Et très vite, ensemble, ils vont découvrir deux nouveaux éléments chimiques. Le premier, ils vont le baptiser polonium, en hommage au pays natal de Marie Curie. Et le second sera le radium.
Ce sont ces travaux qui vont leur valoir le prix Nobel 1903 avec Becquerel.
En 1903, le prix Nobel de physique qui est annoncé pour la découverte de la radioactivité, au départ, n'est remis qu'à Henri Becquerel et Pierre Curie. Mais en effet, Marie Curie était aussi associée à ses recherches, et c'est Pierre Curie qui va insister auprès du comité Nobel pour que le prix soit partagé à trois. Et donc les trois, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, vont partager ce prix Nobel de physique en 1903 pour avoir découvert ce phénomène de radioactivité naturelle.
C'est déjà un couple très moderne.
C'est un couple extrêmement moderne, d'autant que Pierre Curie avait insisté pour que sa jeune épouse ait son nom qui apparaisse sur les notes qui étaient présentées à l'Académie des sciences, par exemple, ce qui n'était pas très courant à l'époque. Et lorsqu'on regarde les carnets de notes qu'ils ont partagés, on voit que c'est une vraie complémentarité scientifique et que Pierre et Marie avaient des compétences croisées et complémentaires qui leur ont permis de faire ces recherches.
Mais ce compagnonnage se termine brutalement en 1906 quand Pierre Curie meurt des suites d'un accident de la circulation assez trivial et terrible.
Alors c'est un drame évidemment, d'autant que Pierre Curie venait enfin d'avoir une reconnaissance et d'obtenir une chaire de professeur à la Sorbonne. Et en se rendant à une séance de l'Académie des sciences, en effet, il est renversé par un attelage tiré par des chevaux. Et c'est un drame, évidemment, pour Marie Curie, bien sûr, et puis pour la science française à l'époque.
René Huyn, je propose qu'on poursuive tout à l'heure notre discussion. On part donc en 1906, au moment où Marie Curie, devenue veuve, s'apprête à reprendre à la Sorbonne le cours que donnait Pierre. Tout de suite, Marie Curie, prix Nobel, veuve illustre et femme amoureuse, un texte de Corinne Klomp, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Christophe Hoquet.
Aujourd'hui, je t'ai apporté un cyclamen. Pierre, sans toi, c'est si difficile. L'État français veut m'accorder une pension. Non, merci. Je suis assez jeune pour gagner de quoi élever nos deux filles. Dans quelques heures, je serai à la Sorbonne, face à tes étudiants. La faculté des sciences m'a proposé de te succéder. Quel mot horrible. J'ai accepté. J'ai toujours pensé que tu avais des choses plus intéressantes à exprimer que moi, mais tu n'es plus là. Tu disais, quoi qu'il arrive, même si l'on se sent comme un corps sans âme, il faut travailler. Je suis ton conseil. Je veux me montrer digne de toi. Prouver au monde que la petite Marie, que tu as tant aimé, a de la valeur.
5 novembre 1906, Marie Curie quitte le cimetière de Sceaux où repose son mari, mort au printemps. Vêtue d'un manteau noir qui souligne sa fine silhouette et contraste avec ses cheveux blonds cendrés, elle regagne la capitale, puis la faculté des sciences, où Pierre Curie était titulaire d'une chaire de physique. Aujourd'hui, à 13h30, elle sera la première femme à enseigner à la Sorbonne. Paris, 13h20. L'amphithéâtre de la Sorbonne est bondé. Dans le public, des étudiants, des journalistes, des élégantes avec de grands chapeaux. Tous curieux de voir de près celle que l'on surnomme la veuve illustre. Marie traverse le couloir qui mène à la salle.
J'ai demandé une faveur. Que mes étudiantes de l'école normale de Sèvres puissent assister à mon cours. C'est l'heure. Mon Pierre, donne-moi un peu de ton courage. Chut, tous ces photographes. Quelle folie.
Lorsqu'on envisage les progrès accomplis en physique depuis une dizaine d'années.
Contrairement à l'usage, Marie Curie n'a pas remercié le ministère et la faculté. Elle a repris le cours de physique de son mari, à l'endroit même où il l'avait laissé. Une façon de montrer qu'elle continue sur la voie qu'ils ont tracée. Une voie semée d'obstacles. En plus de ses nouveaux cours à la Sorbonne, Marie doit assurer seule la direction du laboratoire scientifique et s'occuper de ses deux filles, Irène, 8 ans et demi, et Ève, 16 mois. Pour l'aider au quotidien, elle a une gouvernante polonaise et son beau-père, Eugène Curie, âgé de 78 ans et veuf.
Grande victoire féministe. Si la femme désormais donne l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, que devient la supériorité de l'homme ? Oh Marie, votre entrée à la Sorbonne marquera l'histoire, t'as écouté ça. Le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Oh, nous n'exagérons rien. Ça nous arrache même pas un sourire.
Je veux déménager.
Bon. Pour aller où ?
À Sceaux, près du cimetière.
Mais c'est loin de votre laboratoire.
Tant pis. Là-bas, je me sentirais mieux. Ailleurs, la vie me distrait.
Pas plus mal, non ?
Eugène, nous n'avons pas le même culte...
De nos morts. C'est exact. Je ne fréquente les cimetières que les jours d'enterrement. J'aurais bien le temps de m'y attarder comme pensionnaire. Je n'ai pas d'inclination pour le chagrin. Mais j'en ai pour les pâtisseries, hein. Goûtez, c'est trop religieux, là.
Non, merci.
Mon petit, vous êtes trop maigre. C'est un vieux médecin qui vous le dit. Il faut tenir malgré tout. Manger, sortir, refaire votre vie.
Ma vie de femme est terminée. Je veux me dévouer corps et âme à la science. Et vivre toute seule.
Eh bien, dans ce cas, dès que vous aurez trouvé votre nouvelle demeure, j'irai à Montpellier chez mon fils aîné. S'il veut de moi.
Comment ? Eugène, vous m'abandonnez ?
Mais c'est vous. Vous voulez rester toute seule ?
Toute seule, mais avec vous. Et avec mes filles. Irène et Ève seraient perdues sans leur grand-père. Vous êtes le dieu de notre foyer.
Et du jardin ?
Oui, aussi, oui.
En avril 1907, Marie Curie s'installe avec ses filles et son beau-père à Sceaux, avenue du Chemin de Fer. Depuis la mort de Pierre, son laboratoire de la rue Cuvier reçoit des aides d'Andrew Carnegie, un mécène écossais naturalisé américain ayant fait fortune dans l'acier. Désormais, la savante peut recruter des chercheurs pour ses travaux. En septembre 1907, elle reçoit Hélène Gleditsch, une jeune chimiste de 27 ans.
Pharmacienne, pharmacologue, chimiste. Beau parcours. La Norvège ne vous manque pas ?
Si. Hélas, j'ai dû la quitter il y a 2 ans. L'université n'admettait pas les femmes.
Même punition pour moi en Pologne.
Madame Curie, vous avez le mal du pays ?
Rappelez-moi le nom du premier élément que j'ai découvert en France en juillet 1898.
Le polonium.
Ici, mademoiselle Gleditsch, il faut vivre comme les Français, mais rester fier de ses origines. Pourquoi avoir choisi Paris ?
Parce que vous y travaillez. Vous êtes mon modèle. Je suis fascinée par vos travaux et par les perspectives de la radioactivité. Votre laboratoire, c'est l'endroit rêvé.
Tant mieux. J'ai besoin d'un bon chimiste. Les médecins me sollicitent de plus en plus pour exploiter les sels de radium.
J'ai lu que le radium pourrait soigner des maladies de peau et certaines tumeurs.
Possible. Trop tôt pour se prononcer. Ici, vous devrez le purifier avec la technique de la cristallisation fractionnée. Je vous préviens, votre tâche sera ingrate. Épuisante, dangereuse, qui sait. Regardez mes doigts. Tout abîmé. Il me démange nuit et jour.
La science mérite quelques sacrifices.
Parfait. J'ai horreur des plaintes et du découragement. Autre chose, vous serez la seule femme avec moi. Cela vous dérange ?
Non. Enfin, cela me dérange si vous n'en recrutez pas d'autres. Promouvoir les femmes, c'est important.
Homme ou femme, seul compte la compétence. Des questions ?
Je vais travailler avec vous.
Et avec mon chef de travaux. Moi, j'ai un problème à régler. Des savants ont décrété que le radium n'était pas un élément, mais un composé de plomb, d'atomes d'hélium, bref, n'importe quoi. Je prouverai qu'ils ont tort.
Comment ?
En isolant du radium pur, en tant que métal. Opération très délicate. J'y arriverai. Venez. Bienvenue dans l'antre du radium. Vous faites la grimace ? Déçu ?
Vous êtes prix Nobel, je m'attendais à un grand laboratoire.
Pierre Curie et moi avons toujours refusé de breveter nos découvertes. D'où la modestie relative de mes conditions de travail.
Mais vous pourriez toucher des sommes énormes.
Question de philosophie. Le radium appartient à tout le monde. Il ne doit enrichir personne.
C'est idiot. Enfin, c'est dommage.
Rassurez-vous, je compte m'agrandir. Et j'ai connu pire. L'endroit où nous avons fait nos trouvailles, rue Laumont, avait tout d'un hangar à pommes de terre.
Le polonium, le radium, des pommes de terre qui ont fait votre gloire. Je peux la voir ?
Qui donc ?
La mystérieuse substance, le radium.
Mademoiselle Gleditsch, à son franc-parler, elle te plairait. Elle est jeune, intelligente, trop féministe, mais sensible. Elle a manqué s'évanouir de bonheur devant un tube de radium. Mon Pierre, depuis des semaines, je te délaisse. Pardon. Le travail devient mon refuge. J'ai à peine le temps de voir nos filles. Grâce à ton père, je les entends souvent rire. Il m'est venu une idée pour leur éducation et pour celle des enfants de nos amis. J'en parlerai à Eugène et à celui que tu considérais comme un frère, ce cher Langevin.
Au lieu d'enfermer nos enfants dans les écoles, mieux vaudrait les noyer une bonne fois.
Marie, c'est ça votre grande idée ?
Façon radicale de régler les problèmes.
Bah, j'exagère à peine, Langevin. En France, entre les devoirs et les heures de cours, nos pauvres petits ont la tête sous l'eau. Cela doit changer.
D'accord, mais comment ?
J'aimerais m'inspirer de l'éducation à domicile que Eugène a pratiquée avec ses fils. Elle a fait ses preuves.
Ah, je crois. Pierre a passé son bac sans avoir mis un pied à l'école. Et quelques instants plus tard, il a même reçu le prix Nobel. En excellente compagnie.
Merci. Mon projet est simple. Créer une communauté où les parents seraient les enseignants de leurs enfants et de ceux des autres.
Quel type d'enseignement ?
Avant tout ludique, propice à susciter la curiosité, avec des activités au grand air, du temps libre et très concret. La science y aurait une place centrale.
Bravo, car c'est la grande oubliée des programmes.
Mes fils aînés s'en plaignent. À la maison, ils me sollicitent pour toutes sortes d'expériences, plus ou moins risquées.
Ils ont raison. La science ne s'apprend pas dans les livres. À Varsovie, enfant, j'ai découvert la chimie en dehors de l'école, en mélangeant des produits dans un vieux laboratoire qui a failli exploser. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la magie de la science.
Ah, l'heure de la leçon de jardinage avec ma chère Irène.
À bientôt, Paul.
À bientôt, Eugène.
Je voulais... Je voulais vous remercier pour l'hommage que vous avez écrit à Pierre, juste après ça.
Votre mari a beaucoup compté dans ma vie.
Pour lui, vous étiez un physicien de premier ordre. Il admirait votre énergie. Pardonnez-moi.
Âgé de 35 ans, Paul Langevin est un ancien élève de Pierre. Il lui a succédé comme professeur à l'école de physique et chimie de Paris. Avec lui et d'autres parents, Marie Curie fonde, fin 1907, une coopérative d'enseignement mixte. Chaque matin, une dizaine d'élèves reçoivent un cours unique axé sur la pratique dans un lieu différent. L'après-midi est dédié aux activités sportives et culturelles. Marie enseigne la physique, Paul les mathématiques, d'autres la littérature, l'histoire, le dessin. Cette expérience joyeuse et révolutionnaire durera 2 ans et marquera l'esprit de tous, petits et grands. L'année 1910 commence mal pour Marie Curie. Le 25 février, son beau-père meurt des suites d'une pneumonie. Il est inhumé dans le caveau familial au cimetière de Sceaux.
Ce cher Eugène avait raison. Je passe trop de temps ici. Aujourd'hui, hélas, à cause de lui. Mademoiselle Gleditsch pleure depuis un long moment, sur ses morts, sans doute. Langevin, lui, ne pleure pas. Il me sourit, et son sourire me réchauffe l'âme.
Moi, je ne pourrais pas.
Quoi donc ?
Reposer dans le même caveau que ma femme. Avec elle, la vie sur Terre est déjà rude, alors l'éternité...
Langevin, vous plaisantez ?
Non. Chaque jour, elle m'agonie de reproches et... Et quand ce n'est pas elle, c'est sa sœur ou leur mère. Un trio infernal.
Mais vous avez 4 enfants ? Une grande maison, une très belle situation ?
Très belle, non. Non, non. Jeanne n'est pas de cet avis.
Vous venez d'être nommé professeur titulaire au Collège de France. C'est impressionnant.
Ce qui l'impressionne, c'est l'argent. Et je n'en gagne jamais assez. Elle veut que j'abandonne la science désintéressée pour l'industrie.
Ah non, ce serait du gâchis.
Je résiste, mais... Avant-hier, devant les enfants, elle m'a fracassé une bouteille sur la tête.
Mon Dieu.
J'ai honte de l'avouer, ce n'est pas la première fois. Sa mère aussi se montre violente. Mais que faire, hein ? Mes enfants sont encore petits.
Parlez-lui.
Elle n'écoute rien. Marie, oubliez ça. Hein ? Je m'en veux de vous ennuyer un jour comme aujourd'hui, avec ma pauvre vie.
Cher Langevin, ces confidences m'ont bouleversée. Nous nous connaissons depuis 15 ans, mais en dehors de son travail et de ses publications, j'ignore tout de lui. Je n'aime pas le savoir malheureux.
Après la mort de Jeanne, Marie Curie se consacre davantage à ses filles. Elle veut faire d'elles des jeunes femmes indépendantes et intrépides. Mais sa première préoccupation reste la science. Et elle se lance bientôt dans l'écriture d'un traité sur la radioactivité. Au printemps 1910, Marie reçoit une excellente nouvelle. L'Institut Pasteur et l'Université de Paris ont signé une convention pour construire, en se partageant les frais, un nouvel institut.
L'ensemble s'appellera l'Institut du Radium.
L'Institut du Radium ? Pas très original comme nom.
Vous préférez le temple de la mystérieuse substance ? Il sera érigé près d'ici. Il aura 2 laboratoires. Le premier, consacré à l'étude physique et chimique de la radioactivité, s'appellera le pavillon Curie. Je le dirigerai.
Encore heureux.
Le deuxième, le pavillon Pasteur, sera chargé de l'étude des applications médicales et confié à une célébrité de la recherche. Les bâtiments seront placés côte à côte, comme ça. Dans la cour, je ferai planter des tilleuls. Là et là. Pour mon pavillon, je veux d'immenses fenêtres et beaucoup d'espace. Vous voyez ?
Pas très bien, vous avez tout gribouillé.
Bon, je suis plus douée pour la science que pour le dessin.
Une évidence.
Mademoiselle Gleditsch, je vous sens contrariée ?
Pas du tout.
Mauvaise réponse.
Pourquoi avez-vous refusé la Légion d'honneur ?
Ah, c'est ça. Par fidélité morale à Pierre Curie, qu'il a refusé 2 fois. Et parce que comme lui, je n'en vois pas la nécessité.
Moi, je la voyais, la nécessité d'accepter. Vous êtes une femme. Je suis révoltée que vous fassiez la difficile. Tant de consoeurs aimeraient être à votre place.
Qu'elles la prennent.
Elles se battent pour marcher sur vos traces. Les portes ne s'ouvrent pas en grand.
Jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression qu'en France, ma condition de femme m'ait desservie.
Vraiment ? En 1903, à l'origine, vous n'étiez pas mentionnée pour le Nobel de physique. Si votre mari n'avait pas exprimé sa solidarité à votre égard, ce prix, vous ne l'auriez pas eu.
Mais je l'ai eu. Et je suis la future directrice du pavillon Curie.
Et je m'en réjouis, mais quand même, la Légion d'honneur. Les femmes sont trop modestes et elles passent leur vie à renoncer.
Renoncer ? Voilà un verbe qui m'est étranger.
Vous avez raison, pardon. Je retourne à mes purifications.
Mademoiselle Gleditsch.
Oui ?
J'ai engagé 2 jeunes chimistes pour vous seconder. Une polonaise et une anglaise. Merci de leur réserver l'accueil le plus radieux.
Très bien, merci.
L'année 1910 marque un tournant dans la vie de Marie Curie. Ses dépenses personnelles, réduites d'ordinaire au strict minimum, connaissent une forte hausse, notamment sur le plan vestimentaire. Fin mai, Marie se rend à un déjeuner rue d'Ulm chez Émile et Marguerite Borel, un couple sans enfants dont elle s'est rapprochée après la mort de Pierre. Marguerite, âgée seulement de 27 ans, est la fille du doyen de la faculté des sciences. Intellectuelle exubérante, elle adore recevoir le tout Paris.
Les hommes n'ont rien remarqué. Tous me voient comme l'un d'entre eux, un chercheur. Jamais comme une femme. Tous, sauf un. Je l'ai surpris lui aussi. À ma vue, Il a avalé son thé de travers. Le pauvre. Depuis, il m'observe à la dérobée, avec ses grands yeux de velours qui me font chavirer. Comme il est beau.
C'est Paul, n'est-ce pas? L'heureux élu?
Oh, à moi seul, vous pouvez le dire. C'est lui?
Marguerite, de quoi parlez-vous?
Ma chère, vous mentez mal. C'est un métier, vous savez.
Comment avez-vous deviné?
Pas difficile. Été comme hiver, vous portez une robe noire, parfois éclairée d'une blouse grise, et vous parlez à peine, sauf de vos travaux.
Je l'admets, j'ai l'allure d'une nonne.
Oui, mais d'une nonne prix Nobel. Quand soudain, aujourd'hui, une apparition. Vous, dans une robe blanche, vaporeuse, qui met en valeur vos formes, le gris bleu de vos yeux, et vous parlez, vous riez, avec cette rose jaune accrochée à la taille comme un soleil.
Je l'ai empruntée à votre bouquet dans l'entrée, pardon.
Elle rayonne davantage sur vous que dans mon vase. Avant, vous étiez jolie sans le savoir, et maintenant, vous êtes belle, et ça se voit. À part l'amour, qui provoque ce miracle?
Oui, je ne m'y attendais pas.
Je suis heureuse pour vous. Et pour Paul, depuis des années, il se confie à moi sur son mariage raté qui lui crée des insomnies et d'affreux maux d'estomac. Il mérite un nouvel amour. Vous aussi, Marie.
Merci.
Juste une chose. Méfiez-vous de sa femme et de sa belle famille. Les deux sont redoutables.
Rue du Banquier, numéro 5. Je suis arrivée. Mon cœur bat à tout rompre. Dernière porte à gauche, c'est là. Maintenant, notre code secret, c'est mon idée. Facile à retenir, ce sont les trois chiffres du poids atomique du radium.
Entre. Personne ne t'a suivi.
Pas même mon ombre. Tu me fais visiter ?
C'est petit, tu sais. Tiens, ma chérie. Cadeau.
Les clés d'ici?
Oui. Les clés de chez nous.
À partir de juillet 1910, Paul Langevin loue sous un nom d'emprunt un deux pièces rue du Banquier près des Gobelins. Les amants jouent la prudence, ils ne dorment jamais sur place. La vie sourit à nouveau à Marie Curie. Après 4 ans de travail acharné, elle parvient à isoler dans son laboratoire une petite quantité d'un métal blanc, brillant, qui fond à 700 degrés et noircit à l'air du radium pur. Elle prouve ainsi définitivement que le radium est un élément. Fin août 1910, les premiers nuages s'amoncellent sur son idylle avec Paul. Jeanne Langevin, sa femme, a découvert leur liaison. Elle a attendu Marie devant chez elle, l'a menacée de mort et d'un scandale public.
Je me suis engagé à ne plus te voir.
Tu plaisantes?
Marie, juste quelques semaines, le temps qu'elle se calme.
Ta femme ne se calmera jamais. La seule issue pour vous, c'est la séparation.
C'est pas si simple. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Pour elle, c'est dur. Chaque soir, je l'entends pleurer.
Comme le crocodile avant d'avaler sa proie.
Jeanne est la mère de mes 4 enfants.
Il n'y a pas que tes enfants. Il y a toi, Paul. Depuis des années, tes amis s'inquiètent de ton état. Pense à ton avenir scientifique, à ta vie d'homme. Si tu es heureux, tes enfants le seront aussi.
Mais non, elle va les monter contre moi.
Elle le fait déjà, sous leurs yeux, dans ta propre maison. Cessons de nous cacher comme des criminels. Ta femme a découvert notre amour. Vivons-le au grand jour. Soyons courageux, soyons fiers.
Marie, tu exiges trop de moi, trop vite. Je me sens pris en tenaille entre vous deux. J'étouffe.
Paul, attends!
Chaque jour, je viens chez nous. Je guette ses pas dans l'escalier, en vain. Me voici prête à me battre pour l'amour d'un homme. Cela ne m'était jamais arrivé. Avec Pierre, tout était simple, écrit d'avance. J'ai une idée. Vite, du papier, un crayon. Paul, mon chéri, ta femme n'acceptera pas la séparation si la proposition vient de toi. Elle doit venir d'elle. Tu dois tout faire avec méthode pour lui rendre la vie impossible. De mon côté, je serai patiente. Promis. Je vais finir cette lettre, la laisser en évidence. Ensuite, je rentrerai embrasser mes filles. et corriger les épreuves de mon traité de radioactivité. 1000 pages. De quoi m'occuper l'esprit.
Les deux amants espacent leur rencontre. Jeanne Langevin se calme. Paul, plus serein, réfléchit sérieusement à la quitter. En septembre 1910, Marie Curie connaît un nouveau succès professionnel. Lors du Congrès international de radiologie et d'électricité de Bruxelles, on lui confie la préparation d'un échantillon de 20 mg de radium. Un radium étalon qui sera conservé à Paris et à partir duquel les futurs échantillons de radium seront mesurés. En fin d'année, elle publie son traité de radioactivité en 2 volumes, puis, encouragée par Paul, elle se présente à l'Académie des sciences. Cette première candidature d'une femme à l'Institut de France divise le pays. Si les républicains se montrent favorables à la savante, les conservateurs soutiennent le physicien Édouard Branly, âgé de 66 ans. Dans la presse, le « problème Curie » déchaîne les passions. Le 23 janvier 1911, jour de l'élection, Marie attend le résultat rue Cuvier au laboratoire.
La science est inutile aux femmes, leur mission, la maternité. Faisons barrage à l'introduction du féminisme dans l'académie. Allons bon, me voilà féministe.
Oubliez ces torchons, vous serez élue.
Ah ça, mademoiselle Kedich, nous allons le savoir bientôt. Tout de suite. Allô ? Oui. Élu au deuxième tour avec 2 voix d'avance, Édouard Branly.
Quelle honte, ce vieux gâteux !
Je rentre chez moi.
Madame Curie, attendez.
Un bouquet ? Pour moi ?
Oui. Vous auriez fait une excellente académicienne. Quoi que ces messieurs disent, c'est vous la meilleure.
Une chose est sûre, je ne me représenterai jamais. Peu importe, il me reste la passion. À cause de cette maudite élection, Paul et moi avons déserté la rue du Banquier. Il me manque tant. Je pense plus à lui qu'au futur Institut du Radium. Est-ce vraiment moi, cette femme ? J'ai envie de déménager. Je veux du neuf, du mouvement, des enfants. Oui, de beaux enfants de l'amour. Pourquoi pas ?
Confiant à leur avenir commun, Marie Curie et Paul Langevin vivent une parenthèse enchantée, de courte durée. Mi-avril 1911, quelqu'un s'introduit dans l'appartement de la rue du Banquier et s'empare de leurs lettres. Très vite, Marie subit un chantage de la part d'Henri Bourgeois, le beau-frère de Paul et l'un des directeurs du Petit Journal, quotidien nationaliste et conservateur.
4000 francs ?
Oui, Marguerite. En l'espace de 4 mois, c'est la somme que j'ai versée à cet odieux personnage.
Vous avez mis le doigt dans un terrible engrenage.
Je n'ai pas le choix. Il détient les lettres de Paul et les miennes. Et il sait que je suis pressentie pour un 2e prix Nobel de chimie, cette fois.
Comment ? Mais Marie, c'est formidable, bravo, je l'ignorais.
Vous, oui, mais pas Henri Bourgeois, hélas. Il me tient. Avez-vous des nouvelles de Paul ? Moi, aucune. Je suis inquiète.
Après une violente dispute, il est parti de chez lui fin juillet avec ses 2 garçons. Jeanne l'a attaqué pour abandon de domicile conjugal.
Oh non. Où est-il ?
En Angleterre, avec ses fils. Il voyage.
J'ai peur qu'il s'effondre. Qu'il renonce à la science. Ce serait un drame. Paul est un génie. Mais il a besoin d'être rassuré, comme un enfant. Il est faible.
Oui, mais vous, Marie, vous êtes forte. Et amoureuse.
Pas vous ?
Mon mari me fait rire, il est bon danseur. Pour le reste, nous faisons vie à part.
À la fin de l'été 1911, Marie Curie termine la préparation de l'étalon du radium tout en peaufinant avec un architecte les plans du futur pavillon Curie. Le 4 novembre 1911, le scandale éclate à Paris. Le journal, un quotidien à fort tirage, titre en une « Une histoire d'amour, Madame Curie et le professeur Langevin ». Le lendemain, le Petit Journal publie une interview larmoyante de Jeanne Langevin. Marie rentre au plus vite à Paris pour s'expliquer avec Henri Bourgeois. Paul la rejoint peu après.
Jeanne Langevin, épouse délaissée et mère éplorée, aurait mal vécu notre présence commune à Bruxelles durant 5 nuits dans le même hôtel.
Mais pas dans la même chambre.
Paul, je répète ce que m'a dit ton beau-frère, sans les trémolos. Il menace de publier nos lettres dans son journal.
Son petit journal. Et que veut cette vermine?
Jouer les messagers. Ta femme te demande de renoncer à la garde de vos enfants.
Jamais. J'ai assez trimé pour eux, jusqu'à l'épuisement.
Et elle exige 1 000 francs de pension alimentaire.
Elle rêve? Je suis désolé, Marie, c'est non. Je ne peux pas m'entendre avec ces gens-là. Mes enfants ne sont pas des marchandises.
Calme-toi. Je m'attendais à ta réaction. Du reste, je l'ai dit à Bourgeois. Il m'a suggéré de te raisonner.
Et que lui as-tu répondu?
Monsieur Langevin est assez brillant pour raisonner seul.
Le 7 novembre 1911, Marie Curie reçoit un télégramme de l'Académie royale des sciences de Suède. Un 2e prix Nobel de chimie lui est décerné pour la découverte puis l'étude du polonium et du radium. Mais l'affaire Langevin continue. Paul, refusant tout compromis, son beau-frère fait publier dans la presse d'extrême droite, le 23 novembre, les lettres des amants, incluant les conseils de Marie à Paul pour se libérer de son mariage. La France de la belle époque, attachée aux valeurs de la famille, se déchaîne. Marie, devenue l'étrangère, est présentée comme une briseuse de ménage, une froide calculatrice obsédée par sa gloire. On l'accuse d'être juive, d'avoir poussé son mari au suicide. La nouvelle de sa liaison fait le tour de l'Europe. Fin novembre 1911, sa maison est cernée par une foule haineuse.
Marguerite,
oui.
Enfin, vous voilà. Je n'en peux plus, j'ai peur.
Ça va aller, calmez-vous. Ça va aller, je suis là. Je suis là. Hein? Vous allez venir habiter rue d'Ulm avec vos filles, d'accord? Là-bas, personne ne vous attaquera. Mon mari et moi mobilisons vos soutiens, en France et dans le monde entier. D'accord?
Merci.
Merci. Allez, allons préparer vos affaires. J'oubliais. Une lettre pour vous. Votre gouvernante vient de me la donner. Que se passe-t-il? Vous êtes toute pâle. Marie!
Marie!
Le 10 décembre 1911, Marie Curie reçoit à Stockholm son 2e prix Nobel. Si la savante, dans son discours, rend hommage à Pierre Curie, elle revendique avec force ses propres avancées et découvertes. De retour à Paris, souffrant d'une grave maladie rénale, Marie subit une lourde opération. Elle emménage bientôt quai de Béthune dans un nouvel appartement avec vue sur la Seine. Mais son endroit favori reste son laboratoire, dont la renommée à l'étranger ne cesse de croître. Début 1912, il emploie 25 scientifiques, dont 5 femmes.
L'architecte a bien travaillé. Le chantier de l'Institut du Radium démarre bientôt. Mon pavillon Curie aura fière allure. Votre bureau sera là, mademoiselle Gleditsch. Côté cour, regardez sur le plan.
Je pars en Norvège. J'ai obtenu un poste à l'université.
Vos futurs élèves seront gâtés.
Comme je l'ai été ici avec vous, madame Curie. Vous m'avez tant appris. J'ai l'intention de fonder un laboratoire de radioactivité.
Réservé aux femmes?
Non. Pour elles, je mettrai en place des bourses.
Bonne idée. Nous devons forcer les portes, et même en cas de réussite, nous battre pour les tenir ouvertes. Moi aussi, j'ai appris de vous.
Merci. Je reviendrai vous voir.
Avec vos boursières. Chère Hélène, je vous souhaite le meilleur. Un travail intéressant et une vie de famille simple. Une vie de famille simple, je l'ai eue avec Pierre. Je ne l'aurai plus. L'horrible affaire Langevin a pris fin, notre histoire aussi. J'ai rangé ma robe blanche des temps heureux et j'ai revêtu ma blouse grise de chercheur. Il me reste mon travail et le radium, mon 3e enfant. La Pologne m'a proposé de diriger un laboratoire à Varsovie. J'aime mon pays, mais je reste ici, La France est ma patrie de savante, celle qui a nourri mon amour infini pour la science. La science, elle est d'une telle puissance, d'une telle beauté, elle ne me décevra jamais.
Marie Curie, prix Nobel, veuve illustre et femme amoureuse, de Corinne Klomp, avec Marie Curie, Anne-Lise Hemburger, Hélène Gleditsch, Hélène Morelli, Paul Langevin, Grégoire Tachnakian, Eugène Curie, Jean-Claude Frissung, Marguerite Borel, Hortense Mont-Saint-Jean, et les voix d'Anne-Sophie Bailly, Jean-Noël Lefebvre et Sébastien Ossard. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son montage et mixage, Mathieu Leroux et Titouan Oex. Assistante à la réalisation, Aurélie Miremont. Réalisation, Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur Inter. On poursuit dans quelques minutes la discussion sur Marie Curie avec mon invité Renaud Huyn. Mais d'abord, Laura Cahen, Fusée.
Inter. Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Renaud Huyn, je viens donc de raconter une petite partie de la vie de Marie Curie, un récit qui se termine en 1912 après son second prix Nobel et sa rupture avec Paul Langevin. L'affaire Langevin, comme on l'a appelé, a bien failli lui coûter son second prix Nobel.
Ah, c'était une période terrible pour Marie Curie puisqu'elle a eu deux événements qui vont l'affaiblir beaucoup. Le premier, c'est sa candidature à l'Académie des sciences et le débat était en défaveur de Marie Curie parce qu'elle était femme, parce qu'elle était étrangère, et puis parce qu'elle représentait aussi une certaine France et les réminiscences de l'affaire Dreyfus. Et puis cette affaire Langevin va être dramatique en effet pour Marie Curie qui pourtant était veuve. Tandis que Paul Langevin était marié, on aurait dû plutôt s'attaquer à Paul Langevin. Mais là encore, cette femme étrangère d'origine polonaise, qui suscitait sans doute aussi des jalousies de la part de ses pères, va être très affectée par cette affaire.
Pourquoi parlez-vous de l'affaire Dreyfus ? En quoi ça a un rapport ?
Parce que l'affaire Dreyfus va séparer la France entre deux camps et qu'on va retrouver finalement au moment de cette candidature à l'Académie des sciences, ceux qui soutenaient Branly, qui était la France, je dirais, catholique, bien pensante, d'extrême droite, anti-Dreyfusard. Et à l'inverse, Marie Curie représentait ceux qui défendaient Dreyfus, puisqu'auprès d'elle, il y avait Perrin, Langevin, tous ces intellectuels qui s'étaient engagés.
Elle n'est pas reçue à l'Académie des sciences, mais pour le prix Nobel, là aussi, c'est risqué. L'Académie hésite à lui remettre son prix Nobel, mais elle va se battre pour l'obtenir.
Oui, elle a eu raison de le faire, puisque finalement ce prix Nobel lui est attribué pour ses qualités scientifiques, pour le travail qu'elle a réalisé, et pas pour sa vie personnelle. Donc elle s'est rendue quand même à Stockholm pour recevoir son prix, malgré le fait qu'elle avait reçu un télégramme lui disant que ce serait mieux que, compte tenu du scandale, elle ne se présente pas à Stockholm.
On lui a même proposé, enfin en France, éventuellement de retourner en Pologne à ce moment-là.
Oui, c'était terrible. Et ce qu'on entend dans la fiction, c'est l'intervention de Marguerite Borel, qui va être importante finalement dans cet épisode, puisque c'est elle qui va l'héberger chez elle. C'était la fille du doyen de l'université qui va demander à Marie Curie de quitter la France. Et la fille du doyen, donc Marguerite, va répondre à son père en lui disant « Écoute, si tu fais ça, tu ne vois plus ta fille.
» Oui,
donc elle va défendre Marie Curie, l'héberger chez elle, puisqu'elle était en couple avec Émile Borel, pour que cette période passe. Mais ça va être une période très difficile. Marie Curie va être très affectée, va être même malade. Et très curieusement, ce qui va la remettre finalement dans une dynamique nouvelle, c'est... d'une part, la construction de l'Institut du Radium, le laboratoire dont Pierre Curie avait rêvé, qui devient réalité, et puis la Première Guerre mondiale,
oui,
qui va éclater au mois d'août 1914.
Mais pourquoi c'est si important d'entrer à l'Académie, ou bien d'obtenir le prix Nobel, outre la reconnaissance d'un travail par ses pairs, ce qui est important? Est-ce que c'est aussi la garantie aussi d'avoir des financements, obtenir des fonds, poursuivre la recherche?
Pas nécessairement. Pour Marie Curie, l'enjeu de sa candidature à l'Académie des sciences était la liberté, c'est-à-dire qu'elle aurait eu la liberté de publier. L'enjeu, c'était ça, de pouvoir présenter ses travaux à l'Académie des sciences et les diffuser. La reconnaissance, elle l'avait déjà.
Oui, c'est une femme très connue.
Elle commençait à être très connue, surtout à l'étranger d'ailleurs, parce qu'en France, c'est vrai qu'elle avait encore, elle traînait un petit peu cette image de la jeune épouse du grand professeur Pierre Curie. Mmh. Et pendant très longtemps, elle était considérée comme parfois l'assistante de Pierre Curie.
Tous les deux, Pierre et Marie Curie, ont une éthique, on l'a entendu, une éthique de la recherche. Ils ne veulent pas faire breveter leur découverte de la radioactivité pour justement maintenir la recherche, pour que d'autres chercheurs puissent s'emparer de leur propre découverte pour faire avancer la recherche.
Leur ambition était en effet le partage des connaissances au plus grand nombre. Et dans le cas du radium, de ne pas breveter le procédé d'extraction du radium, ça permettait aussi d'en produire davantage et donc d'avoir plus de matières premières pour travailler. Donc l'objectif, en effet, c'était le progrès de la connaissance et le développement de la recherche scientifique.
Donc en 1914, vous l'avez dit, Roneuwin, l'Institut du Radium est créé, mais c'est le début aussi de la Première Guerre mondiale. Une guerre où Marie Curie, avec sa fille Irène, vont jouer un rôle important avec les petites Curie.
Oui, les bâtiments sont fraîchement livrés quand la guerre éclate, le personnel est mobilisé. Et Marie Curie va vouloir se rendre utile. Elle va travailler dans le service des armées auprès d'Antoine Béclair pour équiper d'abord les hôpitaux du front avec du matériel de radiologie pour détecter les projectiles dans le corps des blessés. Et ensuite, elle va récupérer des véhicules de particuliers qu'elle va équiper également pour avoir des véhicules radiologiques pour aller radiographier les blessés sur le front. Et ce sont ces véhicules qui vont être baptisés des années plus tard par F. Curie, sa fille, qui va écrire la vie de sa mère, ça va être baptisé les Petites Curies.
Donc après la guerre, la situation financière de l'Institut du Radium est difficile. Marie Curie multiplie les efforts pour rallier à sa cause les mécènes, les industriels, les politiques. Et elle effectue un premier voyage aux États-Unis en 1921 pour y chercher un précieux gramme de radium qui a été acheté aux États-Unis grâce au don d'une collecte, de femmes notamment. Je vous propose d'entendre la voix de Marie Curie. Bon, vous allez voir, c'est assez frustrant. On l'entend très peu, mais je crois que c'est le seul enregistrement que l'on possède. On est en 1931 à Paris, quand Marie Curie reçoit la grande médaille d'or de l'Institut américain de radiologie. Le docteur Soland lui rend hommage en anglais et puis elle le remercie en français.
Du Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible.
Nous avons donc entendu très brièvement la voix, et évidemment c'était un son très ancien, la voix de Marie Curie. Est-ce qu'on peut dire que Marie Curie n'était pas une grande bavarde par ailleurs, Renaud Huyne?
Ah, c'est sûr qu'elle n'appréciait pas trop ces grandes conférences, ces interventions publiques. Et là, les personnes qui ont organisé cet événement à Paris, puisqu'on lui remettait une médaille d'or, ont dû l'implorer de venir dire quelques mots. C'est vrai qu'elle n'appréciait pas trop ce
genre mondanités de... ou les. Elle s'encombrait pas de chichi. Hein. Sur les photos, d'ailleurs, on la voit souvent en blouse grise dans son laboratoire. On a l'impression qu'elle a hâte que le photographe s'en aille pour qu'elle puisse reprendre son travail. Il y a quelque chose de...
Oui, c'est un petit peu ça. Et heureusement que sa fille, Ève, faisait attention quand même aux tenues vestimentaires de sa mère pour qu'elle puisse quand même être présentable.
Oui, mais en même temps, c'est pas très important.
Non, c'était pas du tout son souci.
Et est-ce qu'on peut dire qu'elle était féministe? Parce qu'on l'a entendu, elle dit elle-même qu'elle n'est pas féministe face à Hélène Gleditsch, qui travaille avec elle, qui se revendique féministe. Mais en même temps, est-ce qu'on peut dire que Marie Curie l'est d'une certaine manière par son exemple, par l'exemple qu'elle donne?
Elle l'est en effet d'une manière indirecte. On ne peut pas dire qu'elle est féministe au sens où on l'entend aujourd'hui, ni même à l'époque. Elle connaissait d'autres femmes qui s'engageaient davantage sur ce combat des femmes, mais elle était consciente quand même de l'exemple qu'elle représentait pour d'autres femmes. Sa fille, Irène, par contre, elle s'est engagée dans le combat du féminisme.
Oui, puisqu'elle sera ministre dans le premier gouvernement du Front Populaire, une des premières femmes secrétaire d'État.
Avant même d'avoir le droit de vote.
Son école d'ailleurs, c'est pas une école, mais l'enseignement qu'elle donne à ses filles est un enseignement indifférencié filles-garçons. C'est un enseignement très original, cette coopérative d'enseignement qu'elle crée avec ses amis scientifiques et artistes.
Oui, elle considérait que l'école ne favorisait pas la créativité, la curiosité, et donc cette petite coopérative d'enseignement permettait d'avoir des cours de physique, des cours de mathématiques, de pouvoir manipuler, d'aller dans les musées.
Faire du sport aussi.
Faire du sport également, d'avoir une éducation complète. Et c'est vrai que Marie Curie était soucieuse de la bonne éducation de ses filles, qui ne devaient pas être juste des mathématiques et du français, mais au contraire des activités de plein air et un épanouissement complet.
Au-delà des découvertes scientifiques, proprement dites, quel a été l'apport de Marie Curie à la science, brièvement, Renaud Huyne?
Alors vous évoquiez cette vision d'une science pure et désintéressée. C'est une vision qu'elle partageait avec d'autres scientifiques, comme Jean Perrin.
Utile aussi à l'humanité.
Utile à l'humanité, c'était peut-être pas le but en soi. C'était plutôt faire progresser la connaissance. Et c'est vrai que lorsqu'on contactait Marie Curie pour des questions qui n'étaient pas de son ressort, par exemple sur des applications médicales, du radium ou des choses comme ça, elle orientait vers les biologistes et les médecins. Son ambition, c'était de faire progresser la connaissance, de structurer cette recherche scientifique et de permettre aux jeunes de pouvoir avoir des bourses, de pouvoir développer justement cette recherche et de la rendre internationale.
Une philosophie, je pense, qui se poursuit aujourd'hui à l'Institut Curie.
Absolument, avec plus de 70 nationalités représentées. Et c'est vrai que c'était l'ambition de Marie Curie de pouvoir propager ses connaissances à travers le monde. Et on oublie aujourd'hui que le contexte de sa vie était aussi un contexte de guerre. Et le message scientifique était aussi un message de paix.
Merci beaucoup Renaud Huyne de nous avoir rappelé cette histoire. De vous, on peut lire, entre autres, avec Jean-Marc Cosset, la fantastique histoire du radium quand un élément radioactif devient potion magique, édité en 2011 chez Ouest France. Et bien sûr, il faut aller visiter le musée Curie, situé 1 rue Pierre et Marie Curie, à Paris, dans le 5e arrondissement. C'est la fin de cette émission qui était réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Julien Chabassu. Vous pouvez vous abonner au podcast D'autant n'importe l'histoire sur l'appli Radio France, où vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, nous partirons en 1914, très exactement le 28 juin, quand l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône des Habsbourg, est assassiné à Sarajevo par un jeune nationaliste serbe de Bosnie-Herzégovine. Des coups de pistolet qui conduiront quelques semaines plus tard au déclenchement de la Première Guerre mondiale. 1914, Sarajevo, mon amour, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.